Ce matin, nous allons étudier la conclusion de l'épître aux Philippiens. Donc, je vous invite à chercher Philippiens. Philippiens, c'est une lettre que Paul a écrite à cette église à Philippe. Et nous allons lire la fin, chapitre 4, à partir du verset 10. Philippiens, chapitre 4, verset 10 et suivant. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi vous saluent, tous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alors, plus que toutes les lettres de Paul, celle-ci aux Philippiens, c'est la plus joyeuse, c'est la plus encourageante, c'est la plus réjouissante. Et il nous paraissait utile de l'étudier en ces temps-ci où des choses ont plutôt tendance à nous décourager, à nous plomber. Donc nous voulions nous rebooster un peu dans la joie et dans l'encouragement. Cette lettre nous permet de côtoyer Paul, l'apôtre Paul, de faire meilleure connaissance avec lui. Et lui-même, on a vu que lui-même est une personne joyeuse, une personne encourageante. Et c'est le comble, vu ses circonstances. C'est le comble qu'il soit une personne si joyeuse, si encourageante quand on pense à ce qui traverse, ce qui vit. Cette lettre fait la liste des choses qui pourraient nous priver de joie et d'encouragement. En chapitre 1, c'est la prison, c'est la persécution que rencontrent Paul et d'autres chrétiens. En chapitre 2, c'est la maladie d'un ami proche, d'un être cher. En chapitre 3, c'est le joug d'une religion et le sentiment de jamais pouvoir faire assez pour Dieu. Ou aussi l'orgueil pour ceux qui croient réussir. Et vous savez qu'une personne orgueilleuse n'est pas une personne joyeuse. Chapitre 4, nous avons vu ce conflit interpersonnel avec son cortège de pensées qui nous tracasse et qui nous envahissent. Donc voilà, la prison, la persécution, la maladie, le joug d'une religion et un conflit entre personnes, tout ça. Et pourtant, chaque chapitre, Paul dit « Réjouissez-vous ». Soyez dans la joie, je suis dans la joie, soyez dans la joie avec moi. Mais il y a un sujet qui n'a pas été abordé jusque-là, c'est peut-être celui sur lequel notre société fait dépendre le plus facilement, le plus grandement sa joie. Parce que bon, on n'est pas en prison, ce matin en tout cas, on a accès à des bons soins de santé, même si la maladie nous touche. Voilà, notre société a plutôt rejeté en bloc le joug d'une religion, même s'il y a d'autres façons de vivre selon l'orgueil et la chair. Mais il y a une chose pour nous qui nous prive souvent de joie. Il s'agit de l'argent, des biens matériels, de la manière de parler de l'argent, des appels aux dons. Tout ça, ça c'est pas un sujet très réjouissant. Il n'y a rien comme une facture, un relevé de compte en fin de mois, une déclaration d'impôt, je crois que c'est ces jours-ci, n'est-ce pas, pour nous priver de joie. Et puis non seulement il y a des finances personnelles, mais aussi les finances d'une collectivité, je pense aux finances de l'Église. C'est vrai que nous avons une belle équipe de trésoriers, nous avons un comité missionnaire qui réfléchit au soutien, au budget de nos missionnaires, les offrandes que nous venons de prendre servent aussi à cela. Mais souvent, on a l'impression, quand on parle de ses finances, qu'on doit les gérer en Église, eh bien, on pense qu'on quitte le terrain de la joie, on quitte le terrain de la foi, quand on parle de finances. On sait que, même dans les Églises, il peut y avoir des abus, il peut y avoir une manipulation, le mélange de foi et de finances peut créer des problèmes. Avec des appels aux dons sans cesse. Et ça peut être un problème, mais on ne pense pas à un sujet de joie. Mais Paul ici, il nous montre comment garder la joie face aux questions financières, face aux besoins matériels, face aux biens que Dieu nous accorde. Alors ce matin, c'est ça qu'on va essayer de voir, c'est garder notre joie face aux besoins matériels, face à l'argent. Et pour cela, Paul va nous aider. 4 démarches. D'abord, il faut, pour garder sa joie en tout temps, il faut exprimer la reconnaissance. Il faut apprendre le contentement. Il faut savoir donner et recevoir. Et enfin, il faut vivre comblé d'autres richesses. Donc, nous allons voir ces choses ce matin. Tout d'abord, un secret de la joie face aux besoins, face aux biens matériels, c'est d'exprimer la reconnaissance. Dans ces versets, on découvre la raison d'être de cette lettre, de toute cette lettre. La raison concrète, en tout cas, en fait, c'est une lettre de remerciement pour un don que Paul a reçu de la part des Philippiens qui a été transité, qui a été apporté par Épaphrodite. Alors, quand il dit en verset 10, le premier verset, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Concrètement, cette expression de leurs sentiments qui se sont renouvelés, eh bien, c'était le fait de soutenir Paul par un don d'argent dans ses besoins. Mais vous vous souvenez qu'à l'époque, c'est moins facile qu'un virement. Il n'y a pas PayPal. Donc, il faut quand même s'organiser. Il faut que l'argent transite en main propre. Et voilà, il faut risquer le voyage. Il faut trouver le temps. Il faut trouver les ressources. Il faut trouver l'Épaphrodite qui est prêt à le faire. Donc, tout ça, c'était un peu compliqué. Et a priori, quelque chose les empêchait pour un temps. Il dit, l'occasion vous manquait, mais ça y est, je me réjouis de ce que vous avez pu réaliser ce don. Donc, en fait, toute cette lettre et ce texte que nous étudions ce matin regorge de reconnaissance. En fait, le but de cette lettre, c'est de quelque part de dire merci aux Philippiens. Le mot « merci » ne figure pas dans nos versets ce matin, mais déjà on a vu à quel point il avait dit en chapitre 1 qu'il est reconnaissant pour ce partenariat qu'il a avec les Philippiens. Et on comprend le but de cette lettre, c'est d'accuser réception du don. C'est la base de la politesse, merci. Et puis, il va bien au-delà de ça. Il montre une appréciation, une reconnaissance pour les Philippiens et puis il profite bien sûr pour leur enseigner, les encourager plein de fois. Mais à la base, c'est il exprime la reconnaissance. Et cela explique, il me semble, en grande partie la joie constante de Paul. La reconnaissance est une source de joie. La joie qu'il éprouve en verset 10, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur », c'est une reconnaissance envers le Seigneur pour ce qu'il lui donne. Et ça, c'est un secret de la joie, c'est la reconnaissance. Essayer d'être franchement reconnaissant et de bouder en même temps. Essayer. Essayer de passer une mauvaise journée tout en étant rempli de reconnaissance. Vous n'êtes pas arrivé. C'est la beauté et l'avantage de la reconnaissance. Elle fait éprouver la joie. C'est un sentiment joyeux. Et c'est une facette de la joie. D'ailleurs, je trouve que c'est un désavantage à l'athéisme, c'est qu'il n'y a personne à qui remercier. Mais Paul peut dire, j'ai éprouvé une joie dans le Seigneur. On peut remercier. Donc, les gens essaient de remercier les étoiles ou la bonne fée et tout ça, mais on sait que c'est... Non, des fois, il nous faut quelqu'un à qui remercier pour tant de bonnes choses. L'avantage de croire en l'existence de Dieu. Mais quel est le contraire de la reconnaissance? Eh bien, ce sentiment que tout nous est dû, que tout nous est indu. Et dans ces versets, vous voyez que Paul se garde de voir ce don, ce soutien missionnaire qu'il reçoit comme un dû. Et il montre sa reconnaissance. Et vous savez, un don, un geste de bonté, un soutien missionnaire, lorsqu'il est renouvelé, parce que les Philippiens l'avaient fait à plusieurs reprises, on apprend, eh bien, il est facile de s'en habituer et après, on commence à le voir comme un dû. Attends, pourquoi mon soutien n'est pas arrivé ce mois-ci? Ah, moi, j'ai vu des personnes découvrir le système social français. Ah. Incroyable. Quelle reconnaissance, oh là là, quelle générosité de la part de l'État. Le premier mois, c'est comme ça. Et après 2-3 mois, l'attitude change un peu. Où est mon chèque? Pourquoi c'est pas le bon montant? Oh, ils sont nuls à la CAF, tout ça. Et on n'est plus dans la joie. Vous voyez? Méfions-nous de ce sentiment que tout nous est dû. Parce que c'est un des principaux voleurs de notre joie. Quand on voit les choses comme un dû, on devient critique, on devient exigeant. Parce que ça nous est dû. C'est un peu... Et dans tout ça, nous avons vite fait de faire pareil avec Dieu. Même là, au-delà d'un don, d'un soutien missionnaire, notre société, souvent, comme disait Sylvain, on oublie que Dieu est là et que finalement, il faut vivre dans la reconnaissance. L'oxygène m'est un dû. La santé m'est un dû. Une vie normale, une vie confortable m'est un dû. Peut-être pas finalement. Ces choses ne nous sont pas dues si on comprend qui est Dieu, qui nous sommes. Non, ce sont des dons. Et donc la vie entière peut être une occasion d'exprimer la reconnaissance. C'est une grande source de joie. Une autre source, le secret de la joie pour Paul face à des besoins matériels, face à de l'argent. Et tout ça, c'est apprendre le contentement. C'est ce que nous voyons dans les versets, et c'est très lié, bien sûr, à la reconnaissance. C'est apprendre à être content, satisfait en toutes circonstances. Ce qu'il dit en versets 11 et 12, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Et cet état, il décrit les différentes possibilités de l'état. Verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Donc, 3 fois, il répète un peu les mêmes idées. Humiliation, abondance, rassasié, avoir faim, disette, abondance. Donc, au-delà d'un sens littéral, il passe par les saisons où il est dans le besoin. Ce n'est pas évident, il sait pas, le salaire n'est pas là, ou pas autant, il est en prison. Et puis, il a connu aussi des saisons où c'est plutôt, voilà, il est dans l'abondance, plutôt confortable. Mais il ne fait pas dépendre son contentement, sa joie sur un état ou l'autre. Dans sa vie de missionnaire, bien sûr, il a vécu les deux. Il a vécu des moments où les gens, peut-être il était confortable, il était bien accueilli, il n'avait pas trop à penser à ses besoins. Il y avait d'autres moments, on le voit dans le livre des Actes, il est des fois naufragé, des fois il ne va pas manger un soir, certainement. Donc tout ça, il vit tout ça. Et il dit, c'est un apprentissage, ce contentement dans toutes circonstances, c'est un apprentissage. Ça, je trouve fort. Il dit, j'ai appris à avoir faim. Est-ce que vous avez appris à avoir faim? Est-ce que ça s'apprend, avoir faim? Il y a un sentiment naturel, on n'apprend pas à avoir faim. Le corps nous dit ou ne nous dit pas à avoir faim. Mais là, il dit, j'ai appris à avoir faim. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'apprend, la faim? Eh bien, ce qui s'apprend, ce n'est pas le sentiment physique, mais dans ces saisons de besoin, ce qui s'apprend, c'est de ne pas se plaindre, de ne pas en vouloir à Dieu, de ne pas s'aigrir. Ce qui s'apprend, c'est ne pas jalouser les autres qui ont plus. Ce qui s'apprend, c'est de ne pas dépendre trop des autres, mais de Dieu. Ce qui s'apprend, c'est la patience, peut-être. Ce qui s'apprend, c'est de saisir les promesses de Dieu qui dit « Rien ne manque à ceux qui le craignent. » Dieu prend soin des siens. Paul n'est jamais mort de faim. Donc, ce qui s'apprend, c'est tout ça pour garder la joie. Et si déjà ça nous étonne qu'il faut apprendre à avoir faim, encore plus étonnant, c'est qu'il faut apprendre à être rassasié. Là, j'ai dit, oh non, mais ça, c'est facile. Être rassasié, c'est confortable, c'est merveilleux. Je n'ai pas besoin d'apprendre ça. Paul dit, j'ai appris à être dans l'abondance. Et je dirais que cet apprentissage est peut-être encore plus difficile que celui d'avoir faim. Parce que quand on a faim, effectivement, peut-être plus facilement on se tourne vers Dieu ou la prière ou la foi, la confiance, les promesses de Dieu. Mais l'abondance, Peut-être moins, mais ça s'apprend aussi, ce contentement, dans l'abondance. Et qu'est-ce qui s'apprend dans les moments d'abondance? Ben, voilà, il faut apprendre, et surtout nous, de notre époque, notre société, il faut apprendre que le toujours plus ne rend pas plus heureux. Des fois, quand on est rassasié, plus qu'on est rassasié, moins on est content. Les statistiques et les expériences sont flagrants. Plus les gens ont, et ce n'est pas une garantie de plus qu'ils sont heureux et contents. Donc ça s'apprend à être satisfait, à être content, même quand on est rassasié. Qu'est-ce qui s'apprend dans l'abondance? Il faut apprendre à bien gérer les richesses que Dieu nous donne. Savoir être généreux, savoir les investir, savoir être sage, à ne pas les laisser dominer notre cœur. Qu'est-ce qui s'apprend dans l'abondance? Il faut apprendre à ne pas oublier Dieu. Il faut revenir au premier point, il faut apprendre encore la reconnaissance. Donc voilà toutes ces choses qui s'apprennent dans l'abondance. Il faut apprendre à avoir faim, apprendre la disette. Tout ça me paraît, en tout cas, un apprentissage difficile. Surtout que notre économie fonctionne avec un mécontentement programmé. On fait en sorte que vous êtes toujours mécontent, même avec le dernier cri. Donc, ça semble déjà être content en tout temps, comme Paul, ça semble déjà un niveau expert dans la vie chrétienne. Il faut être très fort pour apprendre tout ça, non? On est étonné. Mais c'est pour ça que Paul dit, eh oui, dans tout ça, je puis tout pour celui qui me fortifie. Et c'est ça qu'il faut. Pour apprendre le contentement, il faut être fortifié par Dieu. Et là, oui, Paul peut dire, je puis tout. Être content tout le temps, par celui qui me fortifie. Ce verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », c'est un des top 10 des versets préférés des chrétiens. Le YouVersion, là, ils font un classement des fois. En haut, dans la liste, il y a souvent plusieurs versets de Philippiens. Mais celui-là est jamais loin. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». On aime ça. Mais parfois, on oublie son contexte. Ça ne veut pas dire « je peux réaliser tous mes rêves perso avec l'aide de Dieu ». Pensez à ce que Paul ne peut pas faire en ce moment même. Il ne peut pas visiter Venise en touriste. Il ne peut pas jouer pour l'équipe de Rome et marquer le but gagnant. En fait, il y a plein de choses que Paul ne peut pas faire. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est être content en prison. Il peut être joyeux en prison, il peut être confiant, il peut être encourageant en prison. Voilà, ça c'est le « je puis tout » par celui qui me fortifie. Pour nous aussi, hein, « je puis tout », ce n'est pas forcément trouver un travail aujourd'hui ou retrouver la santé aujourd'hui, « je puis tout ». Mais c'est vivre content et confiant aujourd'hui en attendant. Là, il faut peut-être une force supplémentaire, mais oui, « je puis tout » par celui qui me fortifie. Je puis tout, c'est pas forcément avoir les vacances de rêve, la maison de rêve. Je puis tout, c'est peut-être partir en mission, en sacrifiant ce rêve, ou en soutenant les missionnaires avec un niveau de confort moindre. Voilà le je puis tout. Je puis tout, c'est pouvoir chanter un des cantiques que nous avons chanté ce matin. Chrétien, réjouis-toi. Ou mon assurance est en Christ seul. Je peux chanter ça, même avec la semaine difficile que j'ai eue. Je peux le chanter. Ça, c'est le « je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc, il faut être fortifié par le Dieu puissant pour pouvoir vivre ce contentement, pour pouvoir l'apprendre. Mais Paul est convaincu que Dieu peut nous accorder ce contentement. C'est un grand secret de la joie face à nos besoins matériels, face à l'argent. Apprendre le contentement. Ensuite, il faut savoir donner et recevoir. Et là, on va parler un peu plus du contexte vraiment missionnaire, le partenariat entre Paul et l'Église de Philippe. Et je trouve qu'il y a des applications pour notre Église. On a un comité missionnaire, on soutient de nombreux missionnaires. Et ici, nous avons vraiment une charte, un exemple parfait d'une relation saine entre un missionnaire et l'Église qui le soutient. Évidemment, c'est toujours délicat de parler d'argent, entre amis eux-mêmes. Une belle amitié peut partir en live pour les questions d'argent. Si votre ami vous demande toujours l'argent, l'amitié va, c'est un problème. Mais dans ces versets, vous voyez que Paul, très ami avec les Philippiens, mais il y a quand même cet argent qui circule, Paul préserve cette relation saine, cette relation joyeuse avec les Philippiens. Voyons comment il préserve cette relation. C'est parce qu'il sait donner et recevoir, et il les encourage eux-mêmes à donner et recevoir. Vous voyez que dans ces versets, ça ressort assez clairement que Paul se garde de faire dépendre sa joie de l'argent. Dans ces versets, il ne veut pas faire le mendiant. Dans ces versets, il vient de dire qu'il est content en tout temps, hein, qu'il ait des dons missionnaires, qu'il n'ait pas des dons, il est content. Mais il n'y a pas non plus une fausse modestie, une autosuffisance pour refuser leurs dons. Ah non, Dieu pourvoira, donc je renvoie votre don. Non. C'est pour ça qu'il dit en verset 14, j'ai appris le contentement, je sais vivre dans la disette, je puis tout pour celui qui me fortifie. Cependant, verset 14, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, ils ne crachent pas sur leur don. Et là, il sait recevoir aussi. Il sait recevoir dans ses besoins tout en veillant sur son cœur. Et on voit ça aussi dans les versets suivants, versets 15 et 16, que voilà, Paul décrit une relation forte, un partenariat saint qu'il avait avec cette église. Il dit, voilà, vous le savez vous-même, depuis le commencement, vous avez effectivement participé à mon ministère. Verset 15, aucune église, à part vous, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Et ça, c'est intéressant. Il parle de l'église, cette église qui entre en compte avec lui pour donner et recevoir. Et Paul montre que, il ne conçoit pas leur relation à sens unique. Vous me donnez, voilà, vous donnez, je reçois, et c'est très bien comme ça. Non. Il voit plus loin. Une église qui s'engage dans le soutien missionnaire, elle va donner et elle va recevoir. Il dit, vous entrez en compte avec moi en ce qui concerne de donner et de recevoir. Concrètement, cette église va donner un soutien à Paul, va pourvoir aux besoins de Paul, mais elle va recevoir en tout. Elle va recevoir des lettres, elle va recevoir des nouvelles, elle va recevoir des prières, elle va recevoir ce sentiment de participer au progrès de l'évangile, même à Rome. Et tout ça, c'est des bénédictions. Et c'est pour ça que Paul peut dire en verset 17, je ne cherche pas finalement les dons, ce que je recherche, c'est le fruit qui abonde pour votre compte. Donc Paul sait recevoir et sait donner, et il encourage cette église à apprendre à donner généreusement, mais aussi à recevoir toutes les bénédictions qui en découlent. Et c'est aussi ce que nous vivons ici à l'EBTM. C'est un sujet de joie et de reconnaissance. Ça a toujours été une grande joie pour notre Église et une source de fruits abondante ici à Toulouse, pour nous, à l'EBTM, que de s'engager, que d'entrer en compte, comme dit Paul, dans le soutien des missionnaires. Parce que déjà, la générosité est une source de joie, savoir donner de tout ce que Dieu nous a nous-mêmes donné. Mais aussi savoir recevoir des bénédictions de ces missionnaires que nous soutenons, de leurs nouvelles, de leur vécu, des voyages où nous allons les rejoindre et découvrir le terrain. Nombre d'entre vous ont participé à ce genre de partenariat, d'échange, et vous voyez que c'est une grande source de joie. Quand on part souvent en voyage, on pense aller pour donner, mais finalement, c'est vraiment pour recevoir. Donc, il n'y a pas une relation malsaine entre Paul et l'église de Philippe. Il n'est pas en train de leur manipuler, donnez-moi l'argent. Il n'est pas non plus en train de refuser par fausse modestie. Non, il y a une sagesse dans la manière de gérer l'argent entre eux pour savoir donner et recevoir. Et ça préserve la joie et l'amitié. Donc oui, quatre secrets à la joie, la reconnaissance en tout temps, le contentement en tout temps, et puis la générosité envers d'autres. Mais tout ça ne marcherait pas si vous n'avez pas ce quatrième secret à la joie, c'est de vivre comblé d'autres richesses que celles matérielles. Et vous voyez, Paul, il termine avec une joie, une reconnaissance qui déborde même en verset 18, après les avoir voilà, remerciés, expliqués un peu cette relation, et dit, voilà, verset 18, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien. Mais soyons honnêtes entre nous, soyons réalistes. Il est toujours en prison. Hein. Les Philippiens ne lui ont pas fait un don d'un Ferrari, a priori. Ils ne lui ont pas fait le don d'un château en Provence. Qui pour nous, c'est ça, être dans l'abondance, avoir tout reçu, être complètement comblé, il faudrait tout ça, non? Non. Paul reste en prison, réfléchissant au don qu'il lui a en donné. Ce n'était pas un Ferrari, ce n'était pas un ticket de loto gagnant. C'était probablement, certainement, un don modeste qui va l'aider à mieux supporter quelques mois en prison. D'ailleurs, on connaît un peu la composition de l'église de Philippe. Il y a Lydie. Elle était une femme aisée. En tout cas, à la naissance de l'église, il y avait Lydie, elle a des moyens. Mais après, l'église, c'est Lydie. Après, il y avait ce fonctionnaire, bourreau des prisons. Je ne sais pas s'il gagne beaucoup. Et puis, une esclave qui a été libérée, une esclave qui a été exploitée. Ça, c'est le noyau de l'église. Ça roule, les chrétiens du 1er siècle, ça ne roule pas sur l'or. Donc, concrètement, le don qu'ils ont pu faire à Paul, ça reste, à mon avis, ça reste assez modeste. Comment Paul peut dire « j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien » Tout ça me fait penser que ce n'est pas le don de l'argent en soi qui l'a comblé. D'ailleurs, il avait beaucoup insisté sur ça dans tout notre passage. En verset 11, il dit « ce n'est pas en vue de mes besoins que je parle de ça ». Verset 17, il dit « voilà, ce n'est pas que je recherche les dons ». Et puis verset 18, même, il dit « j'ai tout reçu, votre don ». Mais là, il dit, à la fin du verset, il voit ce don plutôt comme un sacrifice à Dieu, quelque chose qui est agréable à Dieu. Et c'est on dirait que c'est plus ça qui le réjouit, c'est ça qui le comble de savoir que ces Philippiens se sont donnés à Dieu et que leur vie, leur église est agréable à Dieu. Et là, ça le réjouit. On sent une reconnaissance, une joie qui déborde, mais justement pour que quelque chose déborde, il faut que le cœur soit déjà plein. Plein de quoi? Eh bien, justement, pas plein d'argent. Il faut que le cœur soit plein de ce qu'il leur souhaite en verset 19. Il dit, voilà le secret de la joie, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, il sait que les Philippiens ne sont pas plus pauvres d'avoir fait ce don, mais non. Et ils vont être pourvus selon les richesses en gloire de Jésus-Christ. Et ces richesses-là ne se comptent pas en euros ou en dollars. Vous êtes d'accord avec moi? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Nous avons chanté un cantique sur la richesse. Oh, la richesse de notre Dieu! Il n'était jamais question d'euros. Tel est le secret ultime de la joie. Tant que Dieu n'a pas comblé nos besoins de sa richesse, de sa gloire, de sa personne, de son amour, aucune richesse matérielle ne pourra le faire. Mais s'il l'a fait, alors le reste, la reconnaissance déborde, le contentement déborde, la générosité déborde, mais parce qu'on est déjà comblé de Dieu. Et ça, les philosophes, les écrivains, ils sont tous d'accord. Je vous lis quelques citations. Augustin qui dit « Notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en toi. » Pascal « Tous les hommes cherchent à être heureux, mais ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. » Baudelaire, pour ceux qui ont le bac français bientôt, il parle de l'ennui. Pour lui, c'est ce sentiment de vide, d'insatisfaction. Il dit que l'ennui, c'est le plus laid, le plus méchant, le plus immonde de tous nos vices. Les problèmes, les sources de tous les autres. Chesterton, un écrivain anglais, nous avons le mal du pays dans nos pays. En anglais, nous sommes homesick in our homes. Et puis, si tout cela ne vous convainc pas, Kung Fu Panda, seriez-vous enfin pleinement satisfait? Est-ce que la subordination du monde entier suffirait seulement à vous combler? La coupe que vous avez choisi de remplir n'a pas de fond. Je traversais la chambre, la pièce où mes enfants regardaient un film, et j'entends cette phrase l'autre soir. Après Baudelaire et tout ça, j'ai dit, ah, c'est pas mal. Seriez-vous enfin pleinement satisfait? Est-ce que la subordination du monde entier suffirait seulement à vous combler? Non, la coupe que vous avez choisi de remplir n'a pas de fond. Quelle est la coupe que vous choisissez de remplir? Et comment vous la remplissez? La seule manière de vivre comblé, c'est quand Dieu pourvoit à ce sentiment de vide, ce senti de manque, par ses richesses en Jésus-Christ. C'est comme une piscine. On peut mettre beaucoup de choses dans une piscine, on peut jeter beaucoup de choses dans une piscine. Des jeux gonflables, des pastilles de chlore, un thermomètre, des baigneurs, des nageurs, oui, on jette beaucoup de choses dans une piscine. Mais si vous ne la remplissez pas d'abord d'eau, vous aurez l'air un peu ridicule en jetant toutes ces choses dans une piscine. Et on peut même se faire très mal en sautant dans une piscine vide. Eh bien, c'est ça, c'est comme ceux qui cherchent le contentement et le confort matériel, ceux qui cherchent la joie et le plaisir sans Dieu, sans mettre Dieu d'abord dans ce gouffre qui est le cœur humain, dans la coupe, dans le bassin, eh bien, le reste, c'est ridicule et la coupe est sans fond. Et ce serait très difficile à exprimer la reconnaissance, ce serait très difficile à prendre le contentement, ce serait très difficile à donner et à recevoir. Non, il faut la remplir d'abord de Dieu. Et c'est ça qui peut nous rendre cette joie, de penser encore ce matin à ce que Jésus a fait le don suprême. Lui s'est donné. Il a fait le don suprême à la croix pour pouvoir nos besoins éternels, nos besoins de vie éternelle. Et en regardant à la croix, oui, nous pouvons dire comme Paul, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé par la croix de Jésus-Christ, son pardon, son amour pour moi. Je suis comblé d'espérance, je suis comblé d'un sens à ma vie. Et ce sens à la vie, c'est celui de Paul, c'est de partager cette richesse avec d'autres, de les vivre, de les partager avec d'autres. Et c'est ça qui nous comble. Et après, oui, quand on vit des belles choses dans la mission, quand on reçoit un don par une église fidèle, quand on peut donner à un missionnaire fidèle, tout ça intensifie le sentiment d'être joyeux, comblé, parce que Dieu agrée ces choses, que ces choses lui sont agréables, ces choses lui portent gloire. Et le cœur est comblé, rempli. Donc oui, à travers le témoignage d'une vie transformée, une vie joyeuse, comblée par Jésus-Christ, à travers la vision missionnaire d'une église, nous pouvons encore rester dans la joie en tout temps, face à nos besoins matériels, face quand on reçoit des largesses de la part de Dieu. Tout ça ne nous prive pas de joie, mais nous aide à vivre pleinement à sa gloire. Que cela vous encourage encore cette semaine à le vivre pleinement. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier. Effectivement, tu as pourvu à nos besoins en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la preuve que tu pourvois, comme ça a été dit, puisque tu nous as donné Jésus-Christ, puisque tu n'as pas épargné ton propre fils, mais que tu l'as livré pour nous, tu as fait don de lui, un don si riche, eh bien nous avons la preuve ce matin que tu vas prendre soin de nous, que tu marches avec nous, que tu traverses des moments avec nous difficiles, des moments de disette, des moments de besoin. Certaines ici peut-être traversent des moments difficiles où les factures, les stress de la vie, le travail professionnel peut apporter des tracas. Nous te prions qu'ils puissent regarder ce matin à Jésus-Christ. D'autres ce matin se disent, j'ai pas de besoin, tout va bien dans ma vie. Nous te prions qu'ils puissent aussi apprendre à prendre la foi en toi, à prendre la reconnaissance, pas essayer de remplir un cœur qui est sans fond avec des biens matériels de ce monde. Nous te remercions pour tout ce que nous avons vécu ensemble ce matin, tout ce que nous vivons dans notre Église avec nos missionnaires. Nous te prions de les bénir aussi au loin, qu'ils soient comblés par ta présence et ton amour aussi. Nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen.